Upload UTC, l'université populaire du libre, ouverte, accessible et décentralisée à l'UTC. Ce semestre, low technicisation et numérique avec Stéphane Croza et Audrey Guélou.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le troisième cours émission de la formation Upload, low technicisation et numérique, qui est réalisée en partenariat avec Framasoft, Picasoft et Kélis. Vous écoutez la radio Graphite 94.9. Je suis avec Stéphane en studio ce midi pour poursuivre notre introduction à la low technicisation que l'on a initiée la semaine dernière et puis vous parler d'outils et de méthodes utiles pour justement low techniciser. Bonjour Stéphane.
Bonjour Audrey.
Alors on est aussi en direct sur PeerTube à l'adresse tube.picasoft.net, chaîne Upload l'ONUM, et vous pourrez également retrouver la rediffusion de ce cours émission sur cette chaîne-là. Vos questions et vos remarques sont les bienvenues dans les commentaires du live, vous pouvez utiliser le tag l'ONUM, et puis je relayerai vos questions à Stéphane. Je précise aussi que les contenus qui sont présentés ici ont été réalisés grâce à un travail collectif du groupe l'ONUM à l'UTC, et vous pourrez retrouver ces contenus via l'onum.fr. Alors au programme de ce midi, on va commencer par un rappel sur ce que l'on a vu la semaine dernière à propos de l'invention, de l'innovation et puis de la démarche de low technicisation. On va faire un petit passage sur ce que serait un ou une ingénieur en low technicisation. On va ensuite vous parler des méthodes agiles pour rediriger l'innovation justement. Et puis enfin, on parlera d'outils tels que la réalisation d'un état de l'art, l'idéation, le maquettage, l'évaluation réflexive de projets de low technicisation. Alors on commence par un rappel, Stéphane, est-ce que tu veux bien nous reparler de ces notions que l'on a vues, l'invention, l'innovation, low technicisante ?
Je vais en effet essayer de refaire ça sans reprendre toute l'heure de la semaine dernière. Donc l'idée, pour faire court, c'était que dans les démarches de conception high-tech, eh bien, on a des choses qui sont des processus qui sont fondamentalement basés sur l'invention et l'innovation. Et ce qu'on se proposait de faire dans une logique de low technicisation, c'était de conserver ces deux concepts, mais de les rediriger. Alors au sens effectivement où on avait emprunté ce concept de redirection à Alexandre Monin, et on va l'écouter bientôt nous en parler. Mais donc de le rediriger vers des logiques de soutenabilité et convivialité. Soutenabilité, c'est-à-dire de telle façon que l'on prenne en compte fondamentalement les impacts environnementaux. Et convivialité, alors le concept était un concept emprunté à Ivan Illich. L'idée, c'est d'une certaine façon de revendiquer une certaine modestie dans la technique pour favoriser l'autonomie des humains par rapport à ces technologies et donc éviter la complexité. On avait mis en exergue trois leviers pour le techniciser. On va largement se resservir de ces concepts tout à l'heure. Donc le premier, c'était optimiser. Donc ça, c'est vraiment le domaine de la technique et du scientifique. Alors encore une fois, une optimisation redirigée. On va optimiser pour rendre plus convivial, rendre plus soutenable. Pas pour augmenter des marges, pas pour créer de l'usage. Ça, c'était le premier point, optimiser. Deuxième point, imaginer. Donc là, on est plutôt dans le domaine des modes de vie. Ce que Jared Diamond, qu'on avait cité également la semaine dernière, parle des actions par le bas. L'enjeu est de rediscuter la place des techniques dans nos modes de vie et en lien aussi avec l'ataraxie épicurienne que l'on a évoquée la semaine dernière, c'est-à-dire, si on veut le faire de façon un peu simplifiée, la possibilité de décider de ses propres besoins. Optimiser, imaginer. Troisième point, alerter. Donc là, on est plutôt dans le domaine du collectif, du politique, donc ce que Jared Diamond appelle les actions par le haut. L'enjeu est de proposer des alternatives et notamment en vue de fermer des technologies. Nouveau lien avec ce qu'Alexandre Monin et ses comparses nous ont présenté dans l'ouvrage « Héritage et fermeture ».
Et l'idée de la redirection écologique, c'est justement ça, c'est de réfléchir à ce que sont ces activités dont nous dépendons actuellement, que nous le voulions ou non, et comment concrètement on arrive à les faire changer de trajectoire, comment on arrive à parfois les arrêter, comment on arrive à poser des arbitrages en prenant en compte à chaque fois la complexité des situations et en allant voir à la fois politiquement et techniquement aussi les implications si on veut effectuer des arbitrages, renoncer à un certain nombre de choses, désaffecter pour les réaffecter à autre chose, un certain nombre de réalités qui font partie de notre quotidien, de ce modèle qui ne peut plus fonctionner aujourd'hui ou continue à fonctionner en l'état. Et ça, pour le coup, malheureusement, on manque de retour là-dessus. C'est-à-dire que il y a des grands programmes qui existent, la décroissance, ce genre de choses. Mais après, concrètement, comment est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on fait, je sais pas moi, d'une grande surface, qu'est-ce qu'on fait des technologies numériques, qu'est-ce qu'on fait d'un certain nombre de choses qui ne sont pas forcément viables dans l'avenir. Là, on n'a pas de réponse. Et donc, c'est un petit peu cette idée d'aujourd'hui essayer de mettre en place un cadre à la fois de recherche et d'action qui va nous permettre d'élaborer, de trouver et de construire concrètement des réponses en un temps relativement bref à ces questions qui sont aujourd'hui des questions lancinantes, mais en même temps urgentes.
C'était Alexandre Monin, justement, qui nous parlait de la redirection écologique et qui était interviewé pour le cours qui s'appelait « L'eutechnicisation du web » qui était donné à l'UTC donc dans le cadre du cours WE1 en juin 2021. Tout le cours est disponible sur aperi.tube en licence CC BY-SA. Alors maintenant qu'on a fait donc ce rappel sur ce que l'on a vu la semaine dernière, voyons Stéphane, tu voudrais hacker la maxime de l'UTC. Alors qu'est-ce que cette maxime en premier ?
Alors la maxime de l'UTC, c'est « donnons un sens à l'innovation ». Et je propose effectivement de la détourner, de la hacker, et ça donnerait tout simplement « donnons un autre sens à l'innovation ». Ça va un petit peu dans le sens de la proposition que nous faisait Alexandre Monin dans l'extrait, c'est-à-dire une fois qu'on est à peu près d'accord sur le constat, comment on fait ? Et donc l'idée là de ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui, eh bien c'est de donner une petite contribution à comment on fait. Alors qu'est-ce que ça voudrait dire donner un autre sens à l'innovation ? Bah un, ça voudrait dire qu'on remet pas en vie, on remet pas en cause, pardon, l'envie de créer des choses nouvelles. Donc on remet pas en cause le principe d'innover, de faire du nouveau. En revanche, on va pas subordonner non plus la technique à la nouveauté, c'est-à-dire qu'on peut envisager d'explorer des champs de techniques sans être subordonné à la notion de nouveauté. Et puis, on ouvre en quelque sorte sur le concept de fermeture dont vient de nous parler Alexandre Monin, et puis sur l'ataraxie dont on a parlé la semaine dernière, c'est-à-dire encore une fois une sorte de contrôle de nos besoins personnels.
D'accord. Et donc, ce serait quoi concrètement un ou une ingénieur hacké ? On pourrait dire une ou un concepteur au sens large de créateur de services et d'objets, un concepteur en low-technicisation.
Alors, d'abord, donc, c'est un concepteur normal entre guillemets, hein, donc qui sait faire de la technique comme les autres, qui a les mêmes compétences. Peut-être même que c'est un meilleur concepteur en fait, parce que ça va être plus compliqué de convaincre dans le contexte qui est le nôtre aujourd'hui. Sa posture sera en quelque sorte moins comprise, moins admise. Mais donc, on pourrait dire donc d'abord pour commencer, c'est un ingénieur ou un concepteur normal. Il ou elle utilise les outils de la conception classique, donc on va en parler aujourd'hui, hein, mais donc un discours technique, des maquettes, des prototypes, des calculs, de l'argumentation, etc., etc. Jusque-là, on a plutôt deux points dans la continuité, mais donc on va questionner le sens, alors le sens ici au sens d'effectivement la direction de son action et ouvrir donc la possibilité d'une direction différente. La logique de ce qu'il va concevoir n'est pas nécessairement ou a priori de générer de la croissance, voire même ça peut être de générer de la décroissance. Ça va être pas forcément la construction de nouveaux produits, ça va pas forcément être le développement de technologies plus puissantes, ça va pas forcément être non plus la réussite sociale. Donc on va re-questionner en quelque sorte eh bien, ce pourquoi il conçoit des objets et des services.
D'accord, alors comment est-ce qu'on fait pour concevoir justement ces objets et ces services ? Est-ce qu'on a une méthode pour le techniciser en ce sens ?
Alors, on est juste en train de commencer, d'expérimenter, donc on n'a pas une réponse aujourd'hui toute faite, toute bien construite, mais donc la piste que l'on explore et qu'on va explorer ensemble aujourd'hui, eh bien, c'est de se baser sur l'approche agile comme méthode de pilotage de la low-technicisation.
Les méthodes de gestion de projet traditionnelles, elles recherchent plutôt la stabilité, et pour ça, elles figent l'organisation dans l'espace, dans le temps, quelle que soit l'évolution de l'environnement autour. Donc, elle cherche à prévoir de manière à assurer le fait qu'il y ait un minimum d'aléas qui surviennent. Donc, elles sont super performantes quand l'environnement est lui-même stable ou qu'il est très prévisible. Quand il y a quelques aléas qui surviennent par la suite, bah, du coup, ils sont traités comme des problèmes dans le but de retrouver la stabilité escomptée au départ. Quand on est dans un environnement qui est instable, complexe et peu prévisible, bah du coup, la recherche de stabilité, elle devient contre-productive car tout devient problème. On passe l'essentiel de son énergie à essayer de prévoir l'imprévisible et à gérer des problèmes qui, de toute façon, vont survenir.
On vient d'entendre la voix de Valérie Moreau, qui est enseignante-chercheuse à l'UTC et qui intervenait ici en extrait dans le cours émission WE1 aussi sur les méthodes agiles. Et l'ensemble du cours est aussi disponible sur aperi.tube en licence CC BY-SA.
Alors, un bref rappel hein, sur les méthodes agiles, mais l'idée d'une approche agile, c'est de se baser sur la souplesse, donc effectivement avoir la capacité de s'adapter au changement. L'itérativité, c'est-à-dire le fait de fonctionner par petits pas, ce qui est en lien également avec la souplesse et la possibilité de s'adapter, puisqu'on va au fur et à mesure, en quelque sorte, réévaluer les conditions dans lesquelles on travaille, voire même nos objectifs, pour voir comment on avance. Et puis il y a un troisième pilier qui est également très important, qui est la communication. C'est-à-dire qu'afin de gérer en quelque sorte l'incertitude, eh bien il faut que les différentes parties prenantes du projet, que ce soit les concepteurs, ceux qui vont bénéficier des produits, etc., puissent communiquer de façon régulière et en bonne intelligence, en quelque sorte, de façon à prendre des décisions au fur et à mesure. Dans les grandes idées qui sont associées à ça, hein, il y a les concepts de remise en cause des représentations du client, de l'utilisateur, de l'existant. C'est-à-dire qu'on ne va pas prendre pour acquis, en quelque sorte, ce dont on a l'habitude, justement parce qu'on est dans un environnement potentiellement mouvant. Et puis on va aussi remettre en cause eh bien, les besoins, les fonctions. Les démarches agiles ont besoin, enfin pardon, pour objectif de gérer les besoins, donc les créer, les supprimer, etc. Donc on pourrait s'appuyer à nouveau là-dessus et considérer que eh bien, on pourrait aussi fonctionner dans le même esprit, mais pour rediriger ces besoins. Alors, en gros, hein, pour si on envisage de mobiliser l'approche agile dans un contexte de l'autotechnicisation, ben on voit que les concepts de départ ils sont toujours opérants, ils fonctionnent toujours. On va donc également faire l'hypothèse ici que les démarches et les méthodes eh bien vont rester opérantes. Et par contre, ce qui va changer, eh bien fondamentalement, ce sont les indicateurs de pilotage. On va faire un transfert en quelque sorte. On va passer de la logique assez classique coût, délai, profit à un nouveau jeu de critères qui pourrait être par exemple impact, durabilité et appropriabilité.
D'accord, enfin ce sont des méthodes qui ont quand même avant tout pour objectif l'industrialisation et la croissance, donc on reste au fond dans la rhétorique de la start-up, non ?
Alors, on va essayer justement de couper ça à un moment. Alors, mais tu as raison Audrey, tu as raison. D'abord, effectivement, on reste dans la... Enfin, les méthodes agiles fonctionnent fondamentalement dans la logique de l'industrialisation. Alors après, ce qu'on peut se dire également, c'est que c'est néanmoins pas parce qu'elles sont nées dans ce contexte de développement industriel du numérique et pour alimenter la construction d'une société high-tech qui va parfois avoir souvent à l'encontre de la convivialité et de la soutenabilité. Ça, c'est un fait, mais c'est pas pour ça qu'on peut pas essayer de les rediriger. En tout cas, on va essayer. C'est un petit peu ce qu'on va faire ici. Peut-être qu'effectivement, dans un an, on refera un cours en disant qu'on a découvert en quelque sorte des principes liés aux méthodes agiles qui les rendent incompatibles. Mais en tout cas, c'est pas mon hypothèse a priori. Donc on va faire l'hypothèse que c'est compatible avec l'industrialisation. Alors il y a aussi des bonnes raisons pour ça, ou je sais pas si c'est des bonnes raisons, mais en tout cas des raisons. La première, c'est que je pense vraiment que la dimension industrielle, on en a besoin pour faire du renouvelable, du réparable, de l'appropriable, etc., à grande échelle et de façon standardisée. C'est-à-dire l'idée de remplacer tout ce qui se fait aujourd'hui à un niveau industriel par un niveau artisanal, elle est beaucoup plus difficile à défendre. On a cet exemple hein, que je reprends fréquemment, mais que je trouve vraiment intéressant, qui est présenté par Philippe Biwix dans son livre L'âge des low-tech. Il explique que même un vélo, donc ce qui peut être une sorte d'emblème du low-tech, qu'on a utilisé même, je crois, dans l'image de présentation du cours, en fait, c'est pas si low-tech, puisque construire une chaîne de vélo, ça demande déjà des processus avancés, un écosystème industriel. Donc là, c'est le cas en fait de la plupart de nos objets modernes. Donc encore une fois, l'idée c'est de pas se couper, d'essayer de ne pas se couper de l'industrialisation. Alors l'hypothèse d'une industrie low-technicisante, ce serait une industrie qui soit pas pilotée en revanche par le capitalisme contemporain, c'est-à-dire la recherche d'une croissance exponentielle. Hein, c'est ça qui est problématique. On l'avait vu avec Yacine lors de la première émission, mais c'est vraiment cette notion d'exponentielle. On va donc mobiliser la redirection écologique pour remplacer la direction capitaliste actuelle comme point premier de fonctionnement. Donc en fait, l'objectif des projets serait la préservation de l'environnement avant la logique de croissance. Et encore une fois, et on rebondit avec les principes des méthodes agiles, une logique de délibération pour expliciter, négocier les critères, donc communiquer et prendre le temps de se demander pourquoi et comment on fabrique des choses.
Ok, alors essayons. Tu vas nous proposer une approche en 5 étapes, un petit peu plus loin. Alors, de la veille, l'idéation, le maquettage, l'évaluation, la publication. Quand est-ce qu'on commence ?
On va commencer juste après, parce que d'abord, je vais m'offrir une petite pause en souvenir de ma voix un petit peu cassée aujourd'hui. On va donc écouter un extrait qui s'appelle « Libre de vivre », un extrait du groupe Les Total Rectal, qui est sous licence CC BY SA. C'est un groupe UTC1 qui ici était en live à Marulhamotte en 2015. Et donc, « Libre de vivre ou de mourir », c'est parti.
Triste cire embrumée d'éthique soporifique et de conformisme là. Prends tes jambes à ton cou, sors tes mains de tes poches, fuis ou file. Un grand coup de pied au cul.
C'est reparti, Audrey, si je mets les micros.
C'est reparti, on ne peut pas les arrêter. Alors, on en était aux 5 étapes. C'est un petit teasing. Donc, les 5 étapes, la veille, l'idéation, le maquettage, l'évaluation, la publication. Donc, c'est parti pour la première étape, la veille.
Ok, alors, sur la veille, hein, l'idée générale, c'est de savoir où est-ce qu'on en est dans le domaine. Ça peut donner de nouvelles idées, ça peut permettre également de vérifier que y a pas des gens qui ont déjà résolu une partie des problèmes que l'on se pose, et puis d'une façon générale, eh bien de se positionner. Alors la démarche de veille, hein, peut être assez assez complexe, assez avancé. Je vais ici juste présenter quelques points de départ. Donc d'abord, en général, Wikipédia est un bon moyen d'entrer dans un domaine, donc ça va donner d'abord une bibliographie de départ, des définitions relativement consensuelles des premiers concepts. Donc c'est plutôt une bonne façon de rentrer dans le domaine. Ensuite, et notamment à partir des mots que l'on aura mis en exergue avec Wikipédia, eh bien on peut faire une recherche web. Alors un conseil, c'est de faire une recherche web avec un moteur qui n'utilise pas de bulles de filtre. Alors ça nous prendra un petit peu de temps d'exposer ça en détail, mais en gros, lorsque l'on utilise un moteur comme Google Search, il utilise l'ensemble des données qu'il a collectées sur nos propres usages pour essayer de nous proposer des résultats qui, en quelque sorte, vont nous faire plaisir. C'est-à-dire de faire en sorte de présélectionner ce qui pourrait nous intéresser. Alors, dans un certain nombre de contextes, ça peut être assez intéressant. Par exemple, si on cherche des choses, entre guillemets, qu'on connaît déjà, qu'on a juste un petit peu oublié. En revanche, lorsqu'on veut élargir un petit peu et être un peu plus dans la découverte, eh bien, ça peut être contre-productif. Alors, il y a plusieurs méthodes pour ça, mais je vais simplement citer le moteur de recherche DuckDuckGo qui permet de faire de la recherche sans filtre. Il y a aussi Quant en moteur français qui permet de faire ça. Alors une fois qu'on a fait ça, normalement on a déjà retrouvé pas mal d'éléments. Si on a envie d'approfondir un petit peu, notamment dans le domaine de la recherche scientifique, eh bien il y a des moteurs de recherche spécialisés sur le web qui permettent de rechercher dans des bases de données de publications. Alors, là, il y a Google Scholar qui fonctionne plutôt bien pour ça. Il y a des archives francophones, donc comme HAL, H-A-L, également. Et puis ensuite, il y a également des bases de données payantes, mais auxquelles on peut avoir accès à travers les réseaux universitaires. Je mentionne également que lorsque l'on a trouvé un article, alors la question de la science ouverte, hein, et de la possibilité d'accéder au contenu scientifique fait l'objet de débats depuis pas mal d'années, et c'est plutôt en train d'avancer dans le bon sens. Mais il reste aujourd'hui un certain nombre de publications auxquelles on ne peut pas accéder librement. Pour ça, donc il y a un moyen technique qui est interdit en France, mais qui fonctionne quand même, qui s'appelle SciHub. Donc ça s'écrit SCI-HUB. Et donc si on peut accéder au contenu scientifique qui ne sont pas librement accessibles via ce site alternatif, et je répète, interdit en France. Peut-être le dernier petit point qu'on peut citer, c'est que pour organiser et ranger ces ressources bibliographiques, donc bibliographiques, webographiques, au fur et à mesure, eh bien, il y a un logiciel qui s'appelle Zotero qui permet de faire ça de façon assez confortable. On peut y poser ses propres références et également organiser les choses de façon collaborative.
Et d'ailleurs, pour la formation, pour le libre cours Lot Technicisation et Numérique, il y a une bibliographie qui est mise en place sur Zotero, une collection de références bibliographiques. Vous pourrez la retrouver en allant d'abord sur lonum.fr et vous retrouverez le lien pour accéder à la collection Zotero, où on regroupe voilà, une multitude de références. OK pour cette étape donc, de la veille. Après celle-ci, eh bien, on essaie de faire donc, une idéation à partir donc, des trois leviers. Ça va reprendre la question de Sacha, je pense. Sacha qui nous demandait quels sont les trois grands axes proposés pour piloter la redirection des techniques. Là où on a parlé de trois grands axes et trois leviers, eh bien on va partir de là aussi pour l'idéation. C'est parti.
Oui, tout à fait. En effet, j'ai ouvert un petit peu cette idée tout à l'heure, mais l'enjeu, ça va vraiment être de jouer sur les trois leviers qu'on a présentés la semaine dernière, donc optimiser, imaginer, alerter. Alors, la phase d'idéation, pour faire simple, hein, en complément de l'état de l'art, eh bien l'enjeu, alors ça marche d'autant mieux qu'on est un petit peu en groupe pour travailler ce genre de choses, qu'on peut échanger. Eh bien l'enjeu, c'est justement de poser ces différentes idées. De les recenser, de les mélanger, de les faire fonctionner, d'aller tirer des fils, etc. Pareil, plusieurs outils pour ça. On peut utiliser tout simplement un pad. Les pads sont des petits éditeurs de texte assez simples à utiliser en ligne et qui sont synchronisés de façon, qui sont collaboratifs de façon synchrone. C'est-à-dire que lorsque deux personnes écrivent en même temps, eh bien, elles vont voir en même temps ce qu'écrivent les autres personnes. Ça permet de travailler assez confortablement sur des groupes jusque 4-5 personnes qui écrivent en même temps, avec un tout petit peu d'organisation. Il y a aussi des outils numériques collaboratifs de gestion de post-it, par exemple. Donc, au lieu d'écrire simplement comme dans un traitement de texte, eh bien, on va simuler sur un ordinateur le fait de poser, de réorganiser des post-it. Et puis, il y a des outils de type tableau blanc, également, qui permettent de dessiner, de faire un petit peu plus que sur un traitement de texte. Il y a également des outils de carte mentale qui peuvent servir à organiser les idées. Alors, le principe d'une carte mentale, c'est tout simplement un arbre. Hein, on va avoir une racine, et puis à partir de là, on va pouvoir décliner des sous-éléments qui eux-mêmes vont se décliner en sous-éléments, etc., etc. Alors, en effet, Audrey, comme tu viens de nous le suggérer, eh bien, une fois qu'on a commencé à poser des idées plus ou moins en vrac, alors il y a pareil, hein, il y a pas mal de méthodos qui peuvent être mobilisés plus directement pour ces éléments-là. Donc, on peut aller piocher un petit peu. Mais donc, l'idée, c'est que, eh bien, on va organiser ces idées sur les axes, donc en fonction des leviers, optimiser, imaginer, alerter. Et là, notamment, si on se force à faire ce travail de façon un peu rigoureuse, eh bien, on va souvent se rendre compte que dans une première approche, on a mis plein de trucs dans la case optimiser. Puis on a eu un peu plus de mal sur imaginer, alerter. C'est une tendance assez naturelle, puisque en fait, optimiser, ça veut dire en quelque sorte qu'on va rester dans ce qu'on connaît déjà, ce avec quoi on est confortable, puis on va essayer de l'améliorer un petit peu. Et donc on a un peu plus de mal à sortir des cases. Donc pour moi, une des clés pour ouvrir l'usage, encore une fois, de cette phase d'idéation au-delà de ce qu'on est habitué à faire, eh bien, c'est de densifier les cases, imaginer, alerter.
D'accord. Donc, par exemple, on a des exemples éventuellement issus de l'activité pédagogique d'intersemestre qui avait eu lieu cet hiver sur la géotechnicisation et le numérique. Il y avait eu plusieurs projets qui avaient été faits. Tu aurais un exemple d'idéation à partir de là ?
Ouais, alors c'est disponible en ligne, hein, sur lonum.fr s'il y en a qui veulent aller regarder. Donc il y avait un projet qui s'appelait le chat sportif. L'enjeu était de proposer un service de communication éco-responsable, donc pour les étudiants du TC, service de communication au sens d'un service de messagerie instantanée. Alors ils avaient fait le choix d'une carte mentale. Donc il y avait trois racines: optimiser, imaginer, alerter. un exemple pour chacun, pour optimiser un truc assez classique qui en général nous arrive un peu directement quand on imagine ce genre de choses, c'était supprimer tout ce qui était image, audio, vidéo, donc limiter la communication au texte. On voit bien que là, on est juste dans l'optimisation. En revanche, par exemple, dans l'axe imaginer, il y avait des choses un peu plus, risquées, quoi. Donc l'idée, c'était de faire un multiservice, c'est-à-dire qu'à la fois le projet serve de serveur informatique et puis de salle de sport. Et donc, l'alimentation des serveurs était au moins en partie assurée par l'énergie qui était produite par les activités de la salle. Donc par exemple, du vélo de salle ou de la course de salle. Donc ça, c'était imaginé, mais on voit bien que ça a une influence sur les modes de vie, puisque ce n'est pas la même chose de juste communiquer par de la messagerie instantanée ou de devoir contribuer à la salle à travers des activités sportives pour pouvoir utiliser ce service. Et puis, le troisième point, donc sur l'axe alerter, ils ont proposé un programme de militance pour promouvoir le concept, et notamment le faire adopter par d'autres écoles, ce qui impliquait par exemple l'usage de licences libres.
Pour être qualifiée d'appropriable, une technique doit être facile d'accès et d'usage. L'utilisateur doit aussi pouvoir comprendre son fonctionnement, la manipuler et la transformer pour l'adapter à ses besoins propres. Lorsqu'on parle d'une technologie complexe, et particulièrement dans le cas du numérique, l'appropriabilité est aussi d'ordre politique. Les utilisateurs doivent avoir un droit de regard sur la façon dont cette technique est produite et régulée, et un pouvoir d'action.
On vient d'entendre Gabrielle Van de Vijvert, qui était étudiante en WE1 à l'UTC et qui nous donnait une définition de l'appropriabilité lors de sa présentation lors de l'émission Wikipédia, un exemple pour penser la low-technicisation du web, qui avait eu lieu le 8 décembre 2021. C'est disponible toujours sur aperi.tube en licence CC BY-SA. Alors on vient de voir les deux premières phases, donc la veille, l'idéation, et on arrive donc à la troisième phase, le maquettage à présent.
L'idée du maquettage, en quelque sorte, c'est de commencer à mettre en forme les idées que l'on a eues dans une logique de en projetant l'outil technique qui va permettre de les réaliser. Alors, il y a des méthodes assez différentes pour faire ça. Peut-être une qui nous vient à l'esprit, la première, lorsque l'on parle de maquettage, en fait, c'est tout simplement de faire des dessins. Donc, on va pouvoir dessiner les interfaces graphiques qui vont nous permettre de faire fonctionner le logiciel que l'on va concevoir. Ça, c'est une première façon de faire. Alors, pour ça, il faut savoir dessiner un peu. Non, je plaisante, il y a des outils pour le faire. Mais donc, il y a une méthode plus littéraire, c'est la méthode des histoires. Là, l'idée, c'est de raconter l'expérience qu'un utilisateur va vivre avec le produit. Alors, c'est des petites histoires. En général, ça va faire 5 à 10 lignes. Et donc, on va essayer de raconter un petit peu la façon dont on utilise l'outil en essayant, justement, d'en profiter pour mettre un petit peu en exergue les difficultés ou les bénéfices que l'on peut rencontrer. Alors, il y a encore évidemment plein d'autres façons de commencer à préparer les maquettes. On peut aussi commencer à entrer dans de la définition fonctionnelle, par exemple. Mais je ne vais pas plus détailler que ça pour le moment. Peut-être Audrey, tu peux nous... Je crois qu'on a préparé un exemple, idem ici de l'année dernière, disponible sur lenume.fr. Je te laisse nous lire l'histoire de Eco Market Web.
Eco Market Web est une entreprise qui héberge son site web sur Second Life. L'entreprise vend plusieurs produits non alimentaires locaux. La gérante de cette entreprise est informée grâce à l'interface graphique de Second Life que son quota de réseau et de mémoire utilisé est presque saturé pour l'hébergement de son site. Second Life lui propose des conseils automatisés gratuits pour limiter l'impact du site sur les ressources du serveur. Taille des médias, complexité des pages HTML, etc. Certaines propositions vont jusqu'à suggérer de supprimer certaines pages de son site qui sont peu utilisées ou quasiment dupliquées. Second Life lui propose aussi un conseil personnalisé payant, si cela ne suffit pas, ou que la gérante, à présent sensibilisée, souhaite encore aller plus loin.
Alors on voit, c'est juste une petite description, mais à travers un exemple comme celui-là, on est capable de projeter concrètement un certain nombre de fonctions. On voit qu'il y a des notions de Il y a des notions d'ici de suggestion, il y a, on voit qu'il y a le service de conseil personnalisé qui est mentionné, etc. Donc à partir de ce petit récit, eh bien on peut projeter des fonctions. Donc ça, c'est ce qui est fait traditionnellement en approche agile, hein, en conception agile avec lorsque ça mobilise ce genre de méthode. Eh bien, ce que je vais vous proposer aussi, c'est ici de réannoter en quelque sorte, de recommander ces histoires pour mettre en exergue les gains en termes notamment de soutenabilité et de convivialité. Alors éventuellement, ça peut aussi être les gains sur d'autres axes. Hein. Et puis également les pertes sur les autres critères. Qu'est-ce qu'on perd sur les critères de coût, d'efficacité, etc. Voire même d'ailleurs les pertes que l'on pourrait avoir également en termes de mesures soutenabilité ou convivialité. Donc l'enjeu en quelque sorte, ça va être de commencer à évaluer, hein, de préparer en quelque sorte le travail de la preuve sur les axes convivialité, soutenabilité. Alors si on reprend ce petit exemple, Audrey, je me suis livré à l'exercice de façon un peu rapide comme ça, mais sur la soutenabilité, eh bien, on voit bien qu'il y a évidemment un gain direct avec le réusage de téléphone. Enfin, encore une fois, a priori, on va voir des fois qu'il y a des choses qui se compliquent, mais voilà, puisqu'on va héberger son site sur des serveurs construits à partir de réusage de smartphone, eh bien, il y a un gain en termes de soutenabilité. Ça va éviter de construire de nouveaux serveurs. J'ai également noté pour ma part un gain en termes de convivialité, puisqu'on voit que là, il y a l'implication du client dans la gestion technique des ressources de son site web. Donc on n'a pas juste la responsable de EcoMarket Web, c'est pas juste une personne qui clique sur un bouton et qui se dispose avec un site, mais eh bien elle est impliquée, alors peut-être malgré elle, mais en tout cas voilà, on va forcer avec ce projet à lui faire prendre conscience que eh bien son site web prend de l'espace, que ça pourrait en prendre moins ou pas, mais en tout cas voilà, elle va être impliquée dans la gestion de ses ressources numériques. En termes de pertes, si on réfléchit un petit peu en termes de pertes, bon, ici il y avait assez simplement, on voit qu'il y a une réduction de l'usage par exemple des médias audiovisuels qui vont être très à la mode, donc il pourrait y avoir une perte peut-être en termes de marketing.
Combien d'empires de papier? Ainsi l'homme devint un animal, troqua son âme contre du papier. Combien de guerres, combien de scandales? Combien d'empires de papier? Ainsi l'homme devint un animal, troqua son âme contre du papier. Nous avons vaincu nos frères, nous avons pillé leurs terres, nous nous sommes déployés. Abattus des millions d'arbres, sans remords ni palabres, des forêts entières de papier. Pour l'Empire nous travaillons, nous nous avilissons, pour quelques bouts de pain. Et pour
On vient d'entendre un extrait de L'Empire de Papier de HK, c'est issu de l'album L'Empire de Papier en 2017. Ok Stéphane, alors on a ce stade-là, on a posé des idées, on a fait des maquettes, on est là où on réfléchit, mais qu'est-ce qui prouve que, eh bien, avec tout ça, on a bien l'autre technicisé à la fin? Est-ce qu'on est sûr qu'on va dans le bon sens et puis que finalement on n'est pas dans du greenwashing?
Alors je vais répondre à ta question un petit peu après, parce qu'effectivement pour moi cette charge de la preuve et de se forcer à se poser la question de savoir si on est sur la technicisation, ça va être surtout la dernière étape d'évaluation, qui est en fait une étape qui va peut-être être la plus originale par rapport aux autres, qui encore une fois relève assez classiquement des méthodes agiles. Mais avant, tu as prononcé le mot greenwashing, donc je propose qu'on fasse une petite pause. Ça va nous servir pour redéfinir ça. C'est un mot qu'on entend un petit peu à droite, à gauche. Alors, il a des connotations un peu différentes. Je voudrais préciser que le greenwashing, c'est pas juste une petite déviance, quoi, un truc qu'on ferait un petit peu sans faire attention à un moment. Mais c'est vraiment une idéologie, en quelque sorte, une vision du monde qui consiste à croire que l'on peut continuer sans remettre en cause les usages, le progrès, la croissance, pour faire simple et pour renvoyer au concept qu'on a introduit la semaine dernière. Alors, un exemple que l'on prend assez souvent, mais je trouve qu'il illustre vraiment bien les choses, c'est... par exemple, si on dit bah voilà, je fais une action écologique qui va dans le sens de la soutenabilité parce que j'utilise un emballage en plastique plus léger pour des bouteilles d'eau. On est bien dans une forme ici d'optimisation. C'est vrai que un emballage plastique plus léger, bah c'est mieux qu'un emballage plastique moins léger. Ça utilise moins de plastique, le transport sera plus rapide, enfin on consommera moins d'énergie, etc. Mais en revanche, en faisant ça, eh bien, on ne remet pas en cause le principe même de la bouteille d'eau. On remet pas en cause le principe de, du coup, de la façon dont, enfin, dont va être, par exemple, mal assaini le réseau d'eau courante, de la façon dont on pollue les eaux, puisque du coup, tout reste fondé sur des bouteilles d'eau et que l'on peut régler le problème en quelque sorte. Eh bien, en faisant des bouteilles d'eau plus légères, eh bien, on ne va pas dans la deuxième partie. On rentre pas en profondeur dans le problème. Et donc, voilà, ce que l'on voit avec cet exemple-là, hein, c'est qu'une innovation greenwashing, en quelque sorte, eh bien, assez souvent, c'est une innovation qui mobilise quasi exclusivement de l'optimisation, mais qui n'agit pas, voire même qui agit négativement sur les dimensions imagination et alerte. Donc c'est vraiment en rejoignant sur les trois leviers, hein, c'est une première façon aussi de répondre à la question que tu posais, mais c'est vraiment en jouant sur les trois leviers, et notamment sur les leviers imagination et alerte, eh bien que l'on va changer de posture par rapport à ça. Donc voilà, je l'ai déjà dit, mais je le répète, hein, imagination, eh bien ici on ne pense pas d'autre façon de gérer l'eau propre que l'on va consommer, typiquement par exemple des logiques d'assainissement individuel, ou encore une fois la rénovation de l'assainissement collectif. Et la dimension alerte, eh bien on dit aux politiques la qualité de l'eau, si on utilise des bouteilles en plastique, eh bien finalement la qualité de l'eau c'est pas un problème prioritaire, on va se débrouiller, on utilise des bouteilles. Donc du coup on est en quelque sorte dans une sorte de contre-alerte, ou de, en tout cas ici on voit qu'il y a un impact négatif sur la possibilité de régler des problèmes politiques importants, des problèmes collectifs importants comme celui de l'assainissement d'eau.
Ah, mais c'est pas évident. Comment est-ce qu'on peut savoir si on fait du greenwashing ou pas? Alors, parce qu'en fait, on peut le faire presque de bonne foi.
Ouais, tout à fait. Je pense que vraiment, on peut s'auto-manipuler. Et je pense qu'il y a des entreprises qui font cela. C'est quelque chose qu'on fait tous pour gérer nos contradictions. Hein, alors du coup, in fine, les choses, comme tu le dis, sont pas toujours toutes vertes ou toutes noires. En tout cas, ce que je pourrais dire, c'est que si on veut se poser la question de savoir si quelque chose est du greenwashing, pour moi, il y a une condition nécessaire, c'est de se poser la question. C'est-à-dire qu'effectivement, d'intégrer, eh bien, en quelque sorte, dans le processus de conception, et on est en train de raccrocher à notre sujet, d'intégrer dans notre processus de conception un moment où on va réellement faire le boulot de se poser ces questions-là.
Ok, alors tu as un exemple de ça, par exemple, alors, je sais pas moi, avec Total, alors l'entreprise d'hydrocarbures, hein, pas le groupe de musique qu'on vient d'entendre et qu'on va réentendre un petit peu plus tard, ça pourrait marcher ça par exemple?
Avec Total, j'ai l'impression que ce serait un tout petit peu trop facile, puis on n'est pas dans le numérique, alors trouve-moi un autre exemple.
Ok, Ecosia, alors c'est assez connu. Ecosia, c'est un moteur de recherche allemand qui reverse 80%, je cite, hein, qui reverse 80% de ses bénéfices à des associations à but non lucratif qui œuvrent au programme de reforestation présent essentiellement dans les pays du Sud, c'est selon Wikipédia. Ecosia, donc c'est bien ça, non?
Bah écoute, effectivement, ça démarre pas mal. Hein. Donc on voit qu'on est une entreprise non lucrative, donc qui cherche un moyen de sortir effectivement de la logique du capitalisme à croissance exponentielle. On a une logique de transparence, hein. On peut trouver tous les rapports financiers mensuels en ligne. Ça participe au financement de la plantation d'arbres. On a usage d'énergie solaire. Il y a une anonymisation des recherches. Je citais tout à l'heure DuckDuckGo, mais donc avec Ecosia, vous pouvez aussi faire des recherches anonymisées. Donc, il n'y a pas de collecte de données utilisateurs. Il y a aussi un label feuille verte qui, lorsque vous avez des résultats de recherche, eh bien, va vous orienter vers des sites qui vont être considérés par Ecosia comme plus écologiques. Donc, effectivement, ça démarre pas mal. Mais en fait, eh bien, si encore une fois on creuse un petit peu, ou si on cherche à aller regarder un peu comment avec des enfin avec l'œil en quelque sorte du greenwasher ou du celui qui veut pas greenwasher, eh bien premier point, eh bien on va trouver que le site fonctionne sur la publicité. Donc fondamentalement le mode de financement du site c'est celui de la publicité. Donc on a un lien direct entre l'existence d'Ecosia et l'accroissement de la consommation. On a donc ici un lien direct avec la consommation. Premier donc la pub. Deuxième point, et bien en fait Ecosia c'est un métamoteur, c'est-à-dire que construire un moteur de recherche aujourd'hui c'est extrêmement difficile, donc Ecosia a pas fait ça. En fait ils utilisent les résultats d'un moteur de recherche essentiellement celui de Microsoft. Alors là du coup on a un deuxième problème, c'est qu'en fait Ecosia a peut-être des pratiques, objectivement un certain nombre de pratiques tout à fait louables et qui vont dans le bon sens, mais par contre ils existent à condition que Microsoft existe, et les pratiques de Microsoft sont pas nécessairement dans la même direction. Et deuxième point, l'ordre de grandeur, Ecosia c'est 28 millions d'euros et Microsoft c'est 160 milliards d'euros, donc on a un rapport de 1 à 5 000 entre les deux, donc on peut se demander un peu si effectivement l'apport que fait Ecosia est pas absolument non significatif par rapport au travail général de Microsoft. Dernier petit point, je l'ai pas creusé, donc je vais pas trop insister dessus, mais je trouve que c'est intéressant pour justement montrer un petit peu toute la logique. Et bien pour utiliser le moteur d'Ecosia et pour explorer un peu leur site, j'ai dû à un moment autoriser mon navigateur, qui par défaut est configuré pour ne pas le faire, à me connecter à des serveurs tiers qui étaient chez Amazon AWS. Donc on a un autre là géant du numérique dont les pratiques en termes par exemple de soutenabilité et a fortiori de convivialité, eh bien peuvent être largement discutées. Alors il s'agit pas de dire à la fin qu'Ecosia c'est pourri, mais il s'agit de dire que même quand on part d'une bonne initiative comme ça, on se rend compte que derrière, c'est quand même, c'est intéressant d'aller regarder où sont les faiblesses en quelque sorte.
Et on peut même lire donc sur le site necosia.zendesk.com une petite phrase qui nous dit: en tant qu'annonceur, consacrer une partie de vos dépenses publicitaires à Ecosia est l'une des activités de marketing les plus positives pour la planète que vous puissiez faire.
Et ça, pour moi, c'est pas loin d'être du greenwashing, mais là, du coup, c'est mon avis.
On veut du green, 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 green washing. On veut des tours d'avion, des Airbus, du diesel, des mandarines toutes les saisons, des grands voyages dans le ciel, du high-tech à la maison, de la nouvelle technologie. On veut pouvoir dire pardon et soulager son esprit.
On veut de la viande d'Argentine, de la biloche à tous les repas, de la world food dans la cuisine. On veut du sucre, on veut du gras, on veut moins cher, on veut meilleur, on veut toujours un peu d'ailleurs.
On veut la mer, on veut l'été, même en hiver, on veut bronzer. On veut du green, 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 washing.
C'est nous les As, les Pinocchio du marketing.
On veut du green, 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 washing.
Des galets sous le sable, on veut des plages de sable blanc, du réseau pour nos portables, on voudrait quatre bars tout le temps, des orgies raisonnables, des grands échangeurs de béton et des amis toujours joignables.
On veut des baleines et du thon.
C'était un extrait de Greenwashing du trio qui est issu de l'album L'a dit l'a fait, sorti en 2012. Bon, alors à ce stade, on a compris le principe, et donc pour éviter donc de faire du greenwashing, eh bien, il faut en quelque sorte évaluer nos propres idées, et donc ça va être l'objet de la phase suivante.
Ouais, c'est ça, et je pense vraiment que c'est probablement la phase la plus importante in fine de la démarche que l'on propose. On va jouer sur différents axes. Mais donc pour parler du greenwashing, typiquement pour continuer de parler du greenwashing, Benjamin Lucier dans deux semaines va notamment nous parler du greenwashing dans le cadre du cours général qu'il va faire sur informatique et soutenabilité. Alors il va nous parler à un moment des 7 péchés du greenwashing. Et je vais proposer typiquement, voilà un exemple, d'en faire une grille d'auto-analyse pour critiquer les maquettes maquettes que l'on a posées, donc à l'étape précédente, on a commencé à poser des maquettes, eh bien, à travers les 7 péchés du greenwashing, on pourrait utiliser ces 7 péchés pour voir si on a effectivement, pour venir bousculer un peu ce que l'on a posé. Alors, je ne vais pas vous les faire en détail, Benjamin nous les fera la semaine prochaine, je vais juste les citer. Donc, compromis caché, absence de preuves, imprécision, non-pertinence, moindre mal, faux écolabel, et le dernier, mensonge. Alors là, du coup, c'est vraiment quand on est peut-être même au-delà du greenwashing. Alors, si je reprends néanmoins ces critères et le cas d'Ecosia qu'on avait avant, encore une fois, ça aurait été plus facile à faire encore avec d'autres produits, mais je trouvais ça assez intéressant de le faire sur celui-ci. On peut relever, à mon avis, on peut typiquement critiquer la posture qui est celle du moteur de recherche par la notion de moindre mal. C'est-à-dire, en gros, l'idée, c'est de dire, quitte à faire de la pub, quitte à favoriser la consommation, de toute façon, ça, on peut pas faire autrement, autant que ce soit, in fine, pour replanter des arbres. Alors qu'effectivement, peut-être qu'il y a d'autres modèles de financement qui peuvent être recherchés. Deuxième point. Encore une fois, j'ai pas passé des heures à essayer de critiquer ce modèle, mais je pense que justement, lorsque l'on mène un projet, qu'on en est au stade du maquettage, il faudrait pouvoir passer des heures à le critiquer. Donc deuxième péché que l'on peut mobiliser, l'absence de preuves. C'est-à-dire que, bien ici, on a, par exemple, si on prend la citation que nous a donnée Audrey, donc en tant qu'annonceur, consacrer une partie de votre dépense marketing est l'une des activités les plus positives pour la planète que vous puissiez faire. Super, ils ont dit ça, mais quelque part derrière, là, pour le coup, on aimerait bien avoir des informations sur comment est-ce qu'ils peuvent mesurer et affirmer ça, in fine.
D'accord. Bon, et donc, traquer le greenwashing, au final, est-ce que ça suffit pour travailler dans le sens de l'allotechnicisation ?
Alors, non. L'idée, c'est, en fait, ça va être de se baser sur des outils critiques de ce type-là pour auto-évaluer son travail. Voilà, c'est vraiment ça l'enjeu de cette phase-là. Alors, je propose de parler d'évaluation a priori, qualitative et réflexive. A priori, parce que on va la faire donc avant de créer les produits. On va la faire justement dans ces phases d'idéation maquettage, donc avant la conception des produits, sachant qu'aujourd'hui les approches dominantes sont plutôt sur l'après, c'est-à-dire on construit les choses et puis en fait après on va effectivement faire de l'évaluation. Mais c'est aussi ça qui conduit à faire de l'optimisation, parce que c'est beaucoup plus dur de remettre en cause de façon un peu profonde la conception des objets lorsqu'ils existent déjà, que vous avez déjà formé tout le monde à les construire, que vous avez déjà l'ensemble d'un système industriel qui s'est mis en place pour les produire. Donc c'est objectivement beaucoup plus difficile de les remettre en cause à cet endroit-là. Donc ça, c'était le a priori. Deuxièmement, qualitative. Alors, comme c'est a priori, en fait, on peut difficilement faire du quantitatif. En vrai, on peut pas mesurer, on peut pas concrètement utiliser les objets et voir s'ils consomment plus, s'ils consomment moins. On peut faire un certain nombre de calculs, mais on va quand même rester essentiellement dans du qualitatif. Mais il faut le faire. Et troisième point, le réflexif. Parce qu'on s'évalue soi-même. Comme c'est a priori, encore une fois, ça va être difficile de faire rentrer des personnes totalement extérieures. Alors évidemment, quand je dis soi-même, encore une fois, c'est à l'échelle d'un groupe, d'un groupe qui participe au projet. Et je pense que c'est intéressant de le faire, ce travail réflexif, parce qu'on est, comme on est a priori, on est encore dans un état où on peut assez facilement s'autoriser à changer d'avis. On peut, à mon avis, faire l'exercice encore assez honnêtement. Alors peut-être si on a du temps un jour, ou peut-être tout à la fin ou lors du dernier cours, il faudrait parler un peu de la théorie de l'engagement. Alors j'en parle quand même un tout petit peu, mais c'est pour dire qu'on a on a des processus psychologiques qui ont été démontrés, ils sont vraiment assez faciles à démontrer d'ailleurs, qui montre que dès qu'on commence à s'engager d'une action, eh bien en fait on a beaucoup de mal en quelque sorte à s'en désengager. Voilà, pour faire quelque chose de très court, pour apprendre un peu plus de temps éventuellement à un autre moment. Mais en tout cas, une des difficultés de l'auto-évaluation, eh bien c'est qu'en général, on a du mal à remettre en cause ses propres représentations. Je pense que si c'est assez tôt dans le processus, ça peut encore se faire. Et si on en prend l'habitude, ça peut aussi être assez efficace. Alors bien sûr, là je vous parle de ça, c'est juste une étape dans le processus de conception. Ça n'enlève rien au fait qu'il faudra du quantitatif, de la posteriori, qu'il faudra de l'évaluation par des tiers, de la certification, etc. Donc ça, c'était en quelque sorte la première proposition que je vous ai faite. Hein, c'était donc d'observer notre projet à la loupe des 7 péchés du greenwashing. Je vais vous en proposer 2-3 autres. Alors, un deuxième qui me paraît indispensable, c'est d'essayer d'identifier les effets rebonds potentiels. Je rappelle, hein, Yacine Baouch nous l'avait présenté lors de sa conférence de la première semaine. Le principe de l'effet rebond, c'est qu'on a des gains techniques, notamment des gains d'optimisation, qui sont consommés en quelque sorte par du plus. Alors l'exemple typique, c'est en 50 ans, les technologies automobiles se sont beaucoup, beaucoup développées, mais en fait, une voiture de 2022, ça consomme toujours à peu près autant qu'une deux chevaux de 1952. Donc en 70 ans, je dis pas qu'il n'y a pas eu d'autres gains sur d'autres domaines, hein, mais par effet rebond, eh bien en fait, on a une voiture plus lourde, plus puissante, etc., qui consomme toujours autant de carburant. Alors c'est quelque chose qu'on observe extrêmement souvent, hein, en lien avec les processus d'optimisation. Et donc c'est intéressant dans les démarches de conception, et bien en quelque sorte de se forcer à identifier les effets rebonds potentiels avant qu'ils apparaissent. En quelque sorte, en faisant ça, c'est peut-être se donner la chance de les anticiper et de les éviter. On peut pour ça, je vais l'illustrer avec un exemple donc d'un des projets que l'on a mené à l'UTC donc en janvier. Le projet s'appelait EcoCAD, pour donc un système de conception mécanique qui envisageait d'intégrer dans l'outil même de conception donc les problématiques de recyclage notamment. Eh bien, ils avaient identifié dans leur projet que, je cite, plus les gens vont se débarrasser de leurs objets et auront bonne conscience, que plus de gens risquent d'avoir tendance à se débarrasser de leurs objets, car ils ont bonne conscience en sachant qu'ils sont réemployés. Hein, si vous y croyez pas, demandez-vous si des fois vous n'avez pas eu envie de jeter un jean ou une chemise qui fonctionnait encore. La perspective de savoir que ça pourrait être reporté, par exemple, par quelqu'un d'autre en passant par un circuit associatif ou de recyclage, eh bien, va largement favoriser cette décision-là. On va faire une petite pause musicale.
C'est une chanson pour les enfants qui naissent et qui vivent entre la scie et le bitume, entre le béton et l'asphalte, et qui ne sauront peut-être jamais que la terre était un jardin. Il y avait un jardin qu'on appelait la terre. Brillait au soleil comme un fruit défendu. Non, ce n'était pas le paradis ni l'enfer, ni rien de déjà vu ou déjà entendu. La la la, la la la, la la la. Il y avait un jardin, une maison, des arbres, avec un lit de mousse pour y faire l'amour.
On vient d'entendre un extrait de la chanson « Il y avait un jardin » de Georges Moustaki, issu de l'album « Il y avait un jardin » et c'est sorti en 1971. On en était donc aux outils donc de l'évaluation qualitative, évaluation a priori qualitative et réflexive. Tu voulais nous en présenter un autre, Stéphane, donc c'est à propos du code éthique et puis de la matrice SWOT. SWOT, qu'est-ce que c'est ?
Alors, pareil, c'est un des outils, donc ça veut dire strengths, weaknesses, opportunities, threats. Donc, en français, les forces, les faiblesses, les opportunités, les menaces. C'est pareil, c'est une matrice d'études en conception classique qu'à mon avis on peut essayer de remobiliser. Alors pareil, Benjamin nous redira dans deux semaines que un des problèmes que l'on a, c'est que les objectifs de soutenabilité sont bien souvent en contradiction avec les objectifs économiques des entreprises. Eh bien, ce que je propose, c'est ce que l'on propose ici, c'est en quelque sorte de montrer là où ça fait mal d'emblée. Donc, de mettre en exergue là où, dans les projets, on a effectivement des contradictions pour, eh bien, ne pas s'en cacher et accepter de gérer, de vivre avec peut-être une partie de ces contradictions. Donc, la matrice SWOT permet bien de faire ça, puisque justement, on va un des objectifs, eh bien, c'est de encore une fois, d'aller chercher à mettre les doigts là où ça fait mal. Alors, une piste que pareil, hein, tout, j'emprunte beaucoup de choses à la conférence donc dans deux semaines de Benjamin. Il nous a présenté l'idée du, il nous présentera, pardon, il me l'a déjà présenté à moi par le passé, l'idée du code éthique, c'est-à-dire en gros en tant qu'entreprise, en tant qu'organisation, et bien de bien mettre en avant les paramètres éthiques que l'on souhaite défendre. Alors ça peut être, hein, on va pas faire des choses très originales ici, mais ça peut être la durabilité, l'utilité. Alors l'utilité, c'est toujours un concept un petit peu difficile, mais typiquement si on est en médecine, eh bien on va assez vite trouver des endroits où ça va être relativement facile de justifier ça. L'accessibilité, la réappropriabilité, la sobriété, l'efficience. Hein, on a eu une question également sur ce sujet sur lequel on reviendra peut-être, mais en gros, hein, l'idée c'est que là où on aurait, enfin, l'enjeu de l'efficience, ça va être d'essayer de faire au mieux avec les ressources dont on dispose et pas simplement d'atteindre nos objectifs. Voilà, donc ce sont quelques exemples. Mais l'idée, c'est que si on est capable de formuler les valeurs et donc peut-être de les intégrer dans un code éthique que l'on souhaite défendre, on va pouvoir ensuite les utiliser pour, à travers donc l'analyse SWOT, essayer de voir là où effectivement on a des choses qui fonctionnent ou qui ne fonctionnent pas. Alors, peut-être, c'est pas extrêmement facile de présenter un outil matriciel et graphique à la radio, donc peut-être juste un petit exemple. Toujours dans les projets qui ont été menés à l'UTC en janvier, eh bien, il y avait un projet qui s'appelait Ecosia, dont l'enjeu était de proposer une extension au navigateur web pour informer sur l'impact de ses usages. Alors, je vous relève quatre points. Donc, en termes de force, ils avaient identifié que la minimisation des pages, peut rendre les utilisateurs plus concentrés. Donc, ils avaient identifié ici un gain potentiel qui n'était pas forcément dans leur plan de départ. En termes de faiblesse, ils avaient identifié le dysfonctionnement attendu de certains sites, c'est-à-dire que le fait de brider un certain nombre de paramètres techniques, pouvait faire dysfonctionner certains sites. En termes d'opportunités, ils avaient identifié le fait de sensibiliser de façon croissante des utilisateurs. Et puis, en termes de menaces, il y avait le contournement de l'extension par certains sites, c'est-à-dire que si l'extension commence à avoir du succès, certains sites pourraient tenter eux-mêmes de faire un travail informatique pour contourner au mieux l'extension. Donc voilà pour ce troisième axe, hein, que je propose, c'est d'aller effectivement regarder un petit peu ce que l'on a fait à la lumière de ces paramètres. Peut-être un dernier point. Enfin, encore une fois, on en trouvera encore d'autres, mais c'est néanmoins de pas oublier la mesure. Alors, comme je l'ai dit, il est en général difficile de faire de la mesure quantitative a priori, mais on peut quand même cibler où la mesure est nécessaire. Donc, se dire, ça, il faudra le mesurer, il faudra le vérifier. On peut donner des ordres de grandeur, si possible. On peut parfois même a priori, encore une fois, essayer de préévaluer les choses, indiquer que ça reste à faire sinon, c'est-à-dire dire là, faudra à un moment se préoccuper de ça, etc., etc. Alors pareil, un petit exemple donc issu celui-ci du projet Sémaphore, donc toujours même groupe d'étudiants de janvier dernier. Donc Sémaphore, c'était un lieu de médiation et de connexion à Internet pour des communes mal connectées. Deux exemples de choses qu'ils avaient anticipées en termes de mesures. La mesure de la qualité de service, donc là c'est une mesure assez classique, hein, à partir du moment où vous voulez fournir de l'accès en réseau, c'est-à-dire la capacité à véhiculer dans de bonnes conditions un type de trafic réseau donné. Alors, ils avaient fait un petit peu ce travail, encore une fois, de façon qualitative, hein, en considérant que comme ils avaient une fibre qui arrivait à l'endroit du sémaphore lui-même, à cet endroit-là, la connexion serait très bonne, et qu'en revanche, comme derrière, ça redispatcherait en Wi-Fi, la qualité de service pourrait être largement réduite. Mais ils avaient bien noté qu'il resterait des mesures beaucoup plus rigoureuses que ça à faire par ailleurs. Un autre exemple de mesure qu'ils avaient posé, qui était intéressant, c'était de se demander effectivement combien de personnes il faudrait pour assurer correctement le fonctionnement du sémaphore. Donc pareil, ils avaient fait quelques hypothèses, mais qui restaient très largement à vérifier. Alors, en termes d'évaluation, il y a encore donc d'autres choses qu'on pourrait faire. Je l'ai dit dans le cadre de cette formation, on va proposer un autre outil d'évaluation qui va s'inspirer donc de l'idée d'empreinte fantôme que Guillaume Carnino nous présentera la semaine prochaine. Mais donc, ce sera, j'en parle pas plus aujourd'hui, ce sera donc la semaine prochaine pour poursuivre l'exploration théorique et méthodologique de l'allotechnicisation. Et donc, on parlera à ce moment-là d'empreinte fantôme.
Peut-on vivre aujourd'hui dans la fureur et dans le bruit? Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu.
Vous avez sans doute reconnu la chanson « Fait comme l'oiseau » de Michel Fugain et du Big Bazar. Ça est issu de l'album « Fait comme l'oiseau » sorti en 1972. Alors, l'ultime étape de tout ce travail, c'est ensuite l'étape de publication. Stéphane, est-ce que tu veux bien nous parler rapidement de l'étape de publication ?
Oui, effectivement, ça va être un point rapide. Hein. L'idée, c'est que c'est quelque chose qui n'est pas forcément commun dans les approches projet et conception classiques, où en général, on va plutôt travailler entre guillemets dans le secret ou au moins dans la discrétion. Eh bien, là, l'idée, ça va être ce qu'on va proposer, qu'on va expérimenter là, c'est de s'exposer, donc de faire un vrai travail de publication, c'est-à-dire concrètement mettre en ligne tout ce que l'on a fait sur le web. Et donc, pour s'exposer, s'exposer aux deux sens en quelque sorte, artistique et scientifique, au sens artistique, c'est-à-dire exposer ce qu'on a produit. Alors, il y a plein de bonnes raisons pour ça. Hein. Se forcer à une certaine mise en forme de ses idées, diriger vers les autres, c'est-à-dire que d'emblée, on a envie de communiquer avec des personnes que l'on connaît pas. Ça peut donner envie d'expliquer, de partager, etc. Ça peut aussi, évidemment, créer des inspirations. Et puis exposer également au sens scientifique, hein, c'est-à-dire s'exposer à la critique, accepter que, eh bien, on a formulé des hypothèses, on a posé des idées, eh bien, à un moment, si d'autres personnes ne sont pas d'accord, eh bien, elles vont avoir la possibilité de s'appuyer sur ce qu'on a raconté pour nous expliquer qu'on s'est trompé ou qu'on peut faire différemment. Donc l'idée d'assumer que l'allotechnicisation s'inscrit au sein d'un processus de délibération entre les humains, on sort en faisant ça d'une vision purement en quelque sorte techno-scientifique où ceux qui savent et où ceux qui savent faire, eh bien expliquent aux autres en gros ce qu'ils doivent consommer. Donc là, l'idée, c'est de recréer de l'horizontalité. C'est pas parce que quelqu'un sait construire des voitures qui volent qu'on a envie, qu'on a besoin de voitures qui volent. On peut préférer d'autres pistes techniques et il faut des espaces pour en discuter. Et donc pour ça, il faut des espaces publics, démocratiques. Et donc il faut accepter de livrer nos idées aux analyses des autres membres de nos communautés.
Et concrètement ?
Alors concrètement, le numérique, hein, on peut le critiquer sous plein d'angles, mais aujourd'hui en fait c'est assez facile de faire ça. Hein. Le numérique nous a apporté la possibilité de facilement créer des documents et de les rendre accessibles au monde entier. Alors on peut le faire de plein de façons. Peut-être le plus simple, ça peut être d'utiliser un pad comme celui qu'on utilise en ce moment pour préparer nos cours émissions. Hein. Donc c'est un petit outil en ligne, comme je le disais tout à l'heure, qui permet une écriture collaborative et assez simple à manipuler. Si on a un tout petit peu plus de compétences au sein du groupe, on n'est pas obligé tous de les avoir, on peut créer des petits sites web très simplement. Alors ça peut être écrit directement en HTML ou aujourd'hui il y a également des systèmes éditoriaux, hein, qui vont permettre d'aller plus loin si on a envie de faire des choses un peu plus élaborées. après s'être demandé pourquoi est-ce qu'on voulait faire, bien sûr, des choses plus élaborées. Donc, in fine, voilà, je conclurai peut-être juste comme ça en disant que c'est assez facile de cultiver aujourd'hui un petit bout de jardin numérique, un petit bout de web. Alors, nous, on essaye de le faire ensemble, Audrey, avec le cours Écrire sur le web à l'UTC. Il y a plein d'autres endroits où ça se fait. Donc, du coup, en tout cas, la barrière technique de mettre à disposition de l'ensemble du monde eh bien, ce que l'on fait en cours de projet pour recevoir des critiques et ou pour donner des idées, aujourd'hui, on peut considérer qu'elle est à peu près levée.
Ouais, ça c'est concret. Ok Stéphane, merci. En effet, tout ça, c'est ce qu'on a essayé de faire, de commencer à faire sur l'ONUM.fr avec ce qui a été produit donc collectivement. Hein, c'est par les étudiantes et les étudiants de l'UTC, c'était en janvier. Et puis, on va continuer ça, on va intégrer les productions des participantes et des participants de cette première session de la formation Upload de l'ONUM. Et puis, on espère bien sûr des nombreux autres qui suivront. On arrive à la fin de ce cours-émission, de ce troisième cours-émission, et puis on va se retrouver mardi prochain à la même heure sur Graphite et puis toujours en live sur tube.picassoft.net. Ce sera pour un quatrième cours émission qui sera donc sur l'empreinte fantôme qui sera donnée par Guillaume Carnino. Et d'ici là, eh bien, on reste en contact sur Mattermost et puis sur Mastodon et sur Peertube en suivant le tag l'ONUM. Et puis bien sûr, on va se quitter avec un extrait des Total Rectal, c'est encore Libre de vivre, libre de mourir. À la semaine prochaine.
Libre de vivre, libre.